Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de PlayStation 5 Slim, de possibles adieux de Bobby Kotick, de très certains adieux de John Riccitiello. Et tout ça, c'est dans le rendez-vous jeu, tout de suite, maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Très heureux de vous recevoir, de vous revoir, de vous réentendre. Non, moi je vous entends pas, mais vous, vous m'entendez, c'est l'épisode numéro 315. Nous sommes en octobre 2023 et je remercie très 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 chaleureusement le nouveau patriote ou la nouvelle patriote, Loli Doudida, qui nous a rejoint depuis la semaine dernière. Merci de permettre à cette émission d'exister et merci également à Steph Sinalco, le producteur, qu'on remercie régulièrement puisqu'il a trouvé le niveau super secret sur le Patreon. Merci Steph. Et merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent le rendez-vous jeu. Et merci encore plus chaleureux à Escarina que vous voyez en live, en vidéo, si vous êtes sur le Twitch ou sur le replay, sur YouTube. Bonjour Esca, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé?
Salut.
Comment se fait-il que tout à coup on ait droit à la bénédiction de ton doux visage?
C'est l'effet incroyable de la culpabilisation sociale.
Pire pressure.
Aujourd'hui, j'ai mon PC de boulot à la maison qui, lui, a une webcam, mais il va falloir que j'investisse. J'ai pas le choix. Profiter de ce magnifique reflet bleu dans mes lunettes incroyables. Magnifique. Mon setup de streameuse hors du commun.
Très bien. Écoute, on est heureux de t'avoir comme toujours. On a également El Médoc qui nous fait le plaisir de revenir, qui a pris un petit break du Cozy Corner et des j'imagine, on sait pas, mais des préparations pour Origami, tout ça, pour venir nous dire bonjour. Bonjour Médoc, comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci. Écoute, merci de me réinviter. J'ai vu, Patrick, là, les sujets qu'on allait... Enfin, je t'ai entendu même, en début d'émission, les sujets qu'on allait aborder. Alors, t'aurais peut-être dû prendre Gotose à la place, mais c'est pas grave, je trouverais quand même des trucs à dire.
Tu vas trouver des trucs à dire. Je vais être parfaitement... Oui. Écoute, puisque tu me lances sur la question, je vais être... parfaitement honnête avec toi, les sujets en question, c'est pas forcément les trucs les plus excitants de l'histoire de toute l'émission, mais c'est ce qu'on a. Donc, on n'est pas obligé de passer très longtemps dessus.
Bien sûr.
Mais on va en parler. Et puis, on fait le show, tu vois. Je compte aussi sur les talents d'animateurs, de mélambianceurs de chacun d'entre nous pour le rendre intéressant. Et puis, après, on passera au jeu, quoi. Il y a des trucs cool dont on peut parler cette semaine.
Oui, enfin, oui.
On a également un autre illustre invité qui fait son retour dans l'émission, Nodus, est là à nouveau. Salut Valentin, comment vas-tu ?
Coucou, bah écoute, ça va également très bien. Je sors d'une crève, c'est très bizarre parce qu'il fait, il fait 20 degrés, ouais. Mais je sors d'une crève, donc vous allez avoir peut-être droit à moi qui tousse en arrière-plan avec le micro muté.
Tu vois, c'est la différence entre les vrais médias et les vrais gens créateurs indépendants sur Internet. On entend les gens qui toussent dans le fond. C'est authentique. Ça authentifie la diffusion. Et je voyais que sur Twitter que tu mettais le ventilateur qui fait super chaud et tout. J'ai envie de vous dire à tous, ne vous plaignez pas trop. Ici, dans le Nord, quand je dis dans le Nord, vous savez que je vis en Finlande, hein, chers auditeurs.
Oui, c'est quand même plus le Nord que le Nord, quoi.
Voilà, c'est beyond the wall, quoi. Il y a le wall, il est où, on va dire, au niveau de Bruxelles à peu près, tu vois, pour les Français. Moi, je suis bien beyond. Et il y a une sorte de tempête horrible, il y a du vent, en plus je suis à la campagne, il y a les arbres qui tanguent, tout ça. S'il y a une coupure d'électricité en plein milieu de l'émission, vous inquiétez pas. Enfin, c'est le bordel, mais il y a 5 ans à peu près, ils ont creusé des tranchées pour enterrer les câbles électriques sur une immense partie de la distribution jusqu'à chez moi. Sauf que chez moi, vraiment, c'est au milieu de la forêt, donc il y a un fil qui vient encore. Et c'est genre un petit truc sur trois poteaux, à chaque fois qu'il y a du vent, j'ai peur qu'il tombe. C'est un truc tenu par quatre souris, vous savez, c'est compliqué. Donc, on verra si ça tient ou pas. Mais
tu viens prendre le temps.
J'habite en pleine ville et j'ai l'impression que tu viens de décrire le poteau qui tient ma fibre, hein, donc tout va bien.
on verra ce qui se passe. Bon, écoutez, on va quand même s'y mettre. Enfin, avant ça, je voudrais rappeler à tous les auditeurs et les auditrices que la date de notre rencontre dans la vraie vie IRL s'approche. C'est le samedi 21 octobre. C'est au bar Le Corcoran au Sacré-Cœur, qui est... Enfin, vous cherchez Le Corcoran, Sacré-Cœur, c'est juste à côté du Sacré-Cœur, vraiment, très facile à trouver. À 16h, je serai de passage à Paris et on refait, après des années du monde de pendant, je ne sais pas comment c'est, le monde d'avant et le monde d'après, bah là, c'était le monde de pendant où on ne pouvait pas faire d'IRL. Là, on va se retrouver au Corcoran à 16h, le 21 à 16h. Je les ai prévenus, tout ça, tout va bien. Donc, venez nombreux et heureux, on va bien s'amuser. Ça faisait longtemps. 21 octobre à 16h. Et je crois qu'il est temps de se lancer dans ces sujets passionnants qui enthousiasment Mehdi rien qu'à leur mention, tout de suite dans la section news de l'émission. Je vais commencer avec une confession, messieurs, dames. Il faut que... Enfin, une confession, une constatation, en fait. Il faut que je vous dise et que vous compreniez que je suis... Il y a eu une arnaque, en fait, quelque part. Et je suis responsable de cette arnaque. Et oui.
Les NFT, c'était toi.
Alors presque.
Putain, on en a parlé.
Vous savez qu'il y a le projet, c'est pas tout à fait, hein, pas tout à fait ça, mais il y a le projet FitPatrick. Vous savez ce que c'est FitPatrick ? C'est qu'il y a 2 mois environ, j'ai annoncé mon plus grand défi avec une vidéo sur Twitter, tout ça. Je comptais perdre 5 kilos. De là à Noël, depuis début août à Noël. Et certains des auditeurs ont justement surnommé ce défi Fit Patrick. Et on dit Fit, c'est super comme nom Fit Patrick. Sauf que j'ai effectivement perdu du poids, et ça j'en suis très fier, c'est très cool. Mon jean tient à peine, tout ça, c'est formidable. Sauf que je ne suis pas du tout fit. Mais alors pas du tout. Il y a une vraie tromperie sur la marchandise, là, sur l'appellation de l'opération. Et figurez-vous, donc est-ce qu'il faudrait dire... Je vais lier ça. Je vais lier ça à l'actualité d'une manière que vous allez admirer. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt appeler ce projet Not Patrick Slim ? Parce que un petit peu plus slim, mais pas tout à fait fit. Eh bien, Sony a dévoilé la PlayStation 5 Slim, qui n'est pas vraiment une console Slim. Pourquoi ? Parce que, généralement, une console Slim, c'est une console qui est un modèle plus compact et moins cher que le modèle de base. Sauf que Sony, ils ont tellement de succès, ils sont tellement pas inquiétés du tout dans leur place de leader. Vous savez, Nintendo, ils ne sont pas vraiment dans la même cour. Microsoft, c'est Microsoft. Et donc, ils font ce qu'ils veulent chez Sony. Eh ben, au lieu de faire une console Slim qui est plus compacte et moins chère, ils ont décidé de faire une console Slim qui est plus compacte, oui, mais aussi chère. Donc, le nouveau modèle de PlayStation 5 qui est censé être Slim, plus ou moins, eh ben, en fait, c'est pas vraiment un Slim, il y a tromperie. Sony et moi, on est un petit peu des filous, quoi. On vous vend un truc et au final, voilà, moi, je suis pas fit et la Slim, c'est pas une Slim. Bon.
C'est un peu comme quand tu perds des kilos, mais que tu gagnes en masse musculaire. Tu vois, ton poids reste le même sur la balance, mais au final, c'est quand même
plus fit. Ce que tu veux dire, Eska, c'est que moi, je ne suis peut-être pas fit Patrick, mais la PlayStation 5, elle est effectivement la PlayStation 5 fit et pas juste slim. C'est ça l'histoire.
Yes.
Je pense que la PS4 est une sèche, en fait. C'est ça qui se passe.
Ouais. Bon, écoutez. Donc, c'est ça la news. Sony a annoncé la nouvelle PlayStation 5, qui, en fait, est une fusion entre le modèle avec lecteur et sans lecteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux modèles, mais elle est plus compacte, d'abord. Elle fait 30% de moins en taille et en poids. 3,2 kg au lieu de 4,5 kg, c'est substantiel. Et à côté de ça, donc, c'est vraiment le même modèle, mais avec un disque dur, un lecteur de disque ajoutable ou enlevable, intégrable. Et donc, il y a un modèle qui est vendu avec, un modèle qui est vendu sans. Celui qu'on achète sans, eh ben, on peut le rajouter ensuite. Ça coûte un petit peu plus cher que si on l'achète avec à la base. Mais par contre, le prix ne change pas. Le modèle digital, il garde les 50 euros qu'il avait pris il y a quoi, un an. Donc, il est à 450. Et le modèle avec disque, il est à 550. Donc, les prix ne changent pas par rapport au modèle actuel. Les performances ne changent pas non plus. C'est exactement les mêmes performances. Et à côté de ça, il y a quand même une petite entourloupe, on va dire, parce que le stand pour la poser en verticale, il est vendu séparément à une trentaine d'euros. Donc, c'est un peu la shrinkflation selon PlayStation. Soyons honnêtes, pas mauvaise langue, il y a quand même un SSD de 1 Tera au lieu de 825 Go. Donc, on en a un petit peu plus à ce niveau-là et c'est sans doute ce qui compte le plus. Bon, faut qu'on soit rigoureux. On n'est pas encore certain qu'on puisse ajouter un SSD supplémentaire sur la machine, ça il faudra vérifier. Et voilà. Donc, entre parenthèses, il y a aussi potentiellement un modèle Pro qui arrive l'année prochaine, mais à ce stade, c'est ce qu'on sait sur ce modèle Slim. C'est plutôt cool. Je ne sais pas si ça vous inspire des réflexions incroyables.
J'avais juste une question. J'imagine que parce que Sony étant Sony quand même, j'imagine que le lecteur Blu-ray amovible, tu ne pourras passer que par le lecteur Blu-ray officiel. Tu ne pourras pas mettre ton propre lecteur Blu-ray amovible, sinon c'est trop beau.
Ah bah ça, je pense bien, oui, je pense bien. D'une part, il s'intègre vraiment, ce n'est pas un truc qui est collé avec un câble, et il s'intègre et on a l'impression d'avoir une PlayStation normale quand on l'intègre, on enlève la plaque, on colle le truc et tout. Puis il y a peut-être des questions de gestion de DRM aussi qui font qu'il faut celui-là plutôt qu'un autre. Je peux comprendre. Il y a aussi l'Internet qui s'est enflammé sur le petit stand pour le poser à l'horizontale. Il y a un petit stand qui sort, un truc en plastique un peu moche. Donc, l'Internet s'est complètement enflammé là-dessus. C'était rigolo.
Bah, ils ont clairement basé leur business model sur la vente du socle à côté. Hein.
Est-ce que vous avez des PlayStation ? Et si oui, est-ce qu'elles sont posées sur, en verticale ou en horizontale ?
Non, j'ai une PS5, mais elle est posée à l'horizontale. À verticale, je n'ai pas confiance.
C'est-à-dire pareil, quand tu as un enfant, tu ne la poses pas à la verticale.
C'est un peu ça. Et puis, comme elle fait à peu près la taille du Burj Khalifa, tu vois, c'est un peu risqué de la poser dans tous les cas. La plus petite, parce qu'elle est vraiment plus petite, elle est beaucoup plus élégante, je trouve. Peut-être que ça sera plus possible, mais il faudra sortir les 25 euros. Les 29 euros. Entre deux livres, ça tient. Après, il faut l'évacuation.
Entre deux gros dictionnaires, là. Ça...
Bon. Ouais. Il y a aussi deux autres petites news. Sony va lancer le cloud streaming pour les jeux PlayStation 5. Vous vous souvenez que dans l'abonnement premium, il y avait jusqu'à maintenant uniquement des jeux rétro, genre PS3, PS1, PS2, tout ça. Donc, on pourra, à partir du mois d'octobre, à un moment en octobre, vers la fin du mois, streamer des jeux PS5 aussi. Dans l'abonnement premium, il y aura une partie des jeux qui sont inclus dans l'abonnement et certains que vous avez achetés indépendamment, que vous pourrez streamer. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'est du streaming comme le xCloud que fait Microsoft depuis longtemps. Et pour les abonnés premium également, ils ont ajouté quelques films du catalogue de Sony. Donc désormais, on a des jeux, des films. C'est peut-être pas tous les films les plus populaires de l'histoire, mais ils ont des films cool quand même chez Sony. Donc voilà. Vous avez, c'est une partie de l'offre Bravia Core, Sony Pictures Core, machin, qui existait déjà ailleurs.
C'est pas cet abonnement qui a augmenté il y a quelques semaines, là, le PlayStation. J'avais reçu un message qui me disait c'est l'inflation, hein, donc voilà, avec la guerre en Ukraine, et donc on va augmenter le PlayStation. C'est ça.
C'est celui-là. Ouais. Mais alors attends, est-ce que tu es abonné au PlayStation Plus normal, enfin Essential, Extra ou Premium ?
Alors avec mon entreprise, parce que j'ai une entreprise, je suis un entrepreneur.
Je comprends.
J'ai pris le PlayStation.
Le PlayStation Top là, le PlayStation de riche.
Ouais. Ouais, mais je précise, tu vois, c'est pour ça. Non, mais pour ça que je précise avec mon entreprise.
Oui, tu propres sous, tu voudrais pas qu'on croie que tu sois riche, ça serait quand même.
Non, alors, ça m'embêterait.
C'est très certainement.
Je fais ça pour la défiscalisation.
Voilà. Bah, je suis un petit peu dans le même cas, tu vois, moi aussi avec mon entreprise j'ai pris le PlayStation Premium et donc on aura droit tous les deux, grâce à notre PlayStation Plus de riche, à cette formidable offre filmique qui inclut des trucs genre Spider-Man Into the Spider-Verse, tout ça, donc
d'accord.
Voilà, tu peux te réjouir. Je sens que, tu vois, ça te fait...
Oh non, mais je l'ai vu, je l'ai vu il y a quelques il y a quelques semaines au cinéma, donc
Bon, non, ça c'est le premier. Attends, le deuxième, il est pas.
Ah
encore,
ouais, pardon.
Ouais, je sais
ah
pas.
Ah, je m'y connais pas en Spider-Man. D'accord. Ah bah, bon. Je vais pouvoir revoir le premier que j'ai vu il y a quelques temps. Bien, c'est bien, c'est bien. Merci.
Je pense que ton abonnement PlayStation Plus Premium tout à coup prend tout son sens. Ouais. Mais bon, les jeux en streaming, mine de rien, si t'es loin de ta console et que t'as une bonne connexion, ça peut être cool, quoi. Je ne sais pas comment ça va marcher, tu vas te connecter sur un site sans doute, ou peut-être avec l'application PlayStation Plus qui faisait déjà le PlayStation Now, les jeux... Oui, les jeux PS4 sont déjà streamables, hein. Là ça va arriver pour les jeux PS5 aussi. Ce qui est cool, ce qui est cool. Parce que, entre parenthèses, on parlait de tromperie tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis à jour, grâce à une investigation de longue haleine, un problème avec le PlayStation Plus à l'époque du lancement, c'est qu'en streaming, tu avais les jeux PlayStation 4, et à la maison, tu avais les jeux PlayStation 5. Il y avait souvent des jeux qui avaient les deux versions, donc tu te disais, c'est cool, je vais pouvoir jouer à la maison et en streaming, sauf que les sauvegardes ne sont pas les mêmes. Donc si tu joues sur PlayStation 4 en streaming, enfin si tu joues en streaming, tu es sur PlayStation 4, tu as ta sauvegarde PlayStation 4, si tu joues chez toi, tu as ta sauvegarde PlayStation 5. Et donc tu ne peux pas faire le même jeu. Là, avec le streaming PlayStation 5, bah, les jeux que tu pourras streamer en PlayStation 5, et bah, tu pourras jouer au même jeu chez toi et en streaming. Donc ça, c'est un avantage certain. Ça arrive enfin.
Et est-ce que tu pourrais y jouer même si tu n'as pas la PS5 chez toi ? Parce que par exemple, je n'ai pas la PS5. Je rêve de jouer à Demon's Souls dans le métro, sur la ligne 8 par exemple. Est-ce que je pourrais le faire ?
Alors, si tu as la connexion qui va bien dans le métro, oui, complètement. C'est ça le principe, c'est que tu peux depuis longtemps faire du streaming depuis ta console un petit peu partout, mais là, à la limite, tu peux même souscrire à cet abonnement, et c'était le cas depuis longtemps, hein. Encore une fois, il y a du streaming de PlayStation 4, tu peux souscrire à cet abonnement sans PlayStation 5, sans PlayStation 4, et streamer tes jeux avec l'application Windows PlayStation qui est disponible. Et tu pouvais le faire depuis longtemps pour plein de jeux. Aujourd'hui, il rajoute, pour plein de jeux PlayStation 4, aujourd'hui, il rajoute la PlayStation 5. Ce qui est plutôt cool.
Oui.
Donc, moi, je pensais que jouer à Demon's Souls ou prendre le métro à Paris, c'était un peu la même expérience.
Ça dépend de la ligne. Ça dépend de la ligne.
Surtout avec les punaises de lit, maintenant, effectivement, c'est faut connaître les patterns, tout ça. Faut bien faire les roulades. C'est compliqué, quoi.
Et puis les feux de camp, ouais, c'est un peu plus complexe dans le métro.
Ouais, pour trouver le feu de camp, faut s'accrocher. Et entre parenthèses, on peut imaginer que ça pourra s'appliquer, cette histoire de streaming PlayStation 5, à un moment, une fois que ça sera fait, au PlayStation Portal, peut-être qu'ils mettront à jour pour qu'on puisse streamer les jeux directement du cloud et pas uniquement depuis sa console, peut-être. Peut-être. On verra. Deuxième news, Bobby Kotick a fait un truc bizarre. Vous serez surpris, je suis sûr. Bobby Kotick a fait un truc bizarre. Il a fait un town hall meeting. Vous savez ce que c'est, les town hall meetings ? Je parle anglais, moi, donc je peux vous expliquer, mais...
Je connais ces mots anglais, mais vas-y...
Alors, un town hall meeting dans une entreprise, c'est une réunion où toute la société est invitée à assister à une discussion des présidents exécutifs, machin, où ils font un état des lieux de la société, généralement, et présentent ce qui va se passer pour l'année à venir, tout ça. Et bien lui, il a fait un town hall meeting qui est un petit peu, qui a été mis en forme sous une sorte de talk show à l'américaine avec un de ses potes qui est une célébrité qui faisait des late shows aux États-Unis pour parler un petit peu de son parcours, de l'histoire d'Activision, de l'état de l'industrie, tout ça. Alors, il a dit des trucs qui sont intéressants. Il a parlé du fait que, bah, visiblement, Guitar Hero pourrait revenir dans un futur relativement proche. Il a aussi confirmé un truc qu'on avait entendu par ailleurs, qui est que les jeux Activision Blizzard pourraient arriver dans le Game Pass si le rachat se fait, mais pas avant 2024. Donc, ça pourrait arriver, mais vous pouvez quand même acheter vos jeux pour jouer à Noël, parce qu'ils n'arriveront pas cette année. Mais du coup, tout ça, genre le talk show avec l'histoire de ma vie... Ça me fait un petit peu penser à une tournée d'adieu, moi. Je me dis, il sent que là, si tout va bien du côté de Microsoft et des autorités de la concurrence, bah, le rachat devrait être validé très très vite, possiblement dès demain au moment où on enregistre, ce vendredi 13. Et donc, assez vite, il pourrait être annoncé potentiellement que Bobby Kotick quitte ses fonctions chez Activision. Pour tout un tas de raisons, dont les scandales de culture d'entreprise, harcèlement, dont on parle depuis deux ans maintenant, plus de deux ans. Et donc, moi, ça me fait penser à une tournée d'adieu, son truc. Mais je ne sais pas si je prends mes désirs pour des réalités ou je ne sais pas.
Je pensais que tu allais nous annoncer qui part, donc je suis un petit peu déçu. Mais...
Qui part ? Ah non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais bon, plus important que ça, Guitar Hero, vous rachetez des guitares en plastique, tout ça, vous êtes prêt à repartir là, ça fait assez longtemps.
C'est marrant, je pensais à toute la franchise hier et puis même à tous ces jeux avec des devices sur le côté, DJ Hero, Rock Band, etc. Et je me disais quand même, ça fait longtemps qu'on n'est pas. Et vu que c'est un peu le jeu vidéo, c'est aussi une question de mode. Et donc, il y a des retours, parfois, et je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ces devices, est-ce que ça ne serait pas le moment de les ressortir ? Mais j'étais pas sûr de moi. À l'époque, je les avais dosés, les Guitar Hero, et j'étais arrivé presque à une overdose, quoi. Une fois que, tu sais, tu commences à rentrer Through the Fire and Flames, en difficile, et que tu commences à zioter le mode expert, et tu prends des devices, des briquets ou des stylos pour essayer de ou des élastiques. Je mettais des élastiques pour essayer de m'en sortir au niveau du truc et tout. C'est que peut-être t'es allé trop loin dans le game, quoi. Et donc, j'aurais peur de retomber dedans. Non, parce que j'étais à fond. C'était ma cam, C'était ma cam à fond, à fond, à fond. Mais écoute, si Coty qui peut partir et puis les trucs et Guitar Hero ils peuvent revenir, je dis
à la
pourquoi pas.
Tu dis en échange,
on gagne au change, je pense. C'est ce que Gotos dirait, je pense, avec son analyse, sa fine analyse, c'est ce qu'il dirait. On gagne au change.
C'est possible, ouais. Mais si quelqu'un, même comme toi, qui était méga fan de la licence, hésite. Je me demande s'il est vraiment, tu vois, si c'est un bon plan de la faire revenir. Mais bon,
il y avait vraiment eu cette discussion à l'époque. Il y avait eu ce constat que c'était saturé.
C'est certain.
Ces jeux-là, ce principe, c'est arrivé à saturation. Et ça avait été dit, il me semble, même au sein d'Acti. C'est vrai qu'on a saturé et maintenant tout le monde est saoulé. Donc faut voir comment les gens aujourd'hui.
Ça fait longtemps.
Oui, depuis, il y a des gens, il y a des joueuses qui ont terminé Elden Ring avec des devices de Guitar Hero.
C'est ça.
Oui,
ouais. Non, depuis, il y a des. Imagine, Médoc, je veux pas te déprimer, mais si ça fait 15 ans, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient 5 ans à l'époque. Qui aujourd'hui ont 20 ans et ont peut-être envie de racheter
des
trucs du genre, tu vois.
Évidemment.
Donc, bon, peut-être. Petit erratum, Maxime Claudel de Numérama est peut-être l'auteur d'un des articles sur le sujet, est dans la chatroom et nous indique qu'à ce stade, en tout cas, le streaming de jeux PlayStation 5 n'est possible que sur PlayStation 5. Donc, c'est pas possible avec l'application Windows et c'est pas possible avec d'autres devices. Donc oui, le streaming PlayStation 5 n'est possible que sur PlayStation 5 à ce stade. Merci de la précision. Je peux imaginer que c'est dans un premier temps pour tester, pour monter leur infrastructure. À terme, ça pourrait s'étendre, mais à ce stade, c'est que sur PlayStation 5. Donc merci de la correction. Vous voulez dire également adieu à un exécutif qui n'est pas forcément des plus aimés de cette industrie ? Eh bien, si vous le souhaitez, vos vœux se réalisent. J'avais pressenti, on en parlait il y a 2-3 semaines, j'avais pressenti que ça se passerait. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite que ça. Le président de Unity a annoncé qu'il avait trouver la porte de sortie et qu'il allait l'emprunter.
Il y avait des gros néons avec des flèches.
Genre, il y avait les mecs qui poussent un tout petit peu, tu sais, qui se déplacent dans ton espace personnel, qui fait que tu dois bouger dans une direction. Et ben, ils ont fait ça vers la sortie. Évidemment, Unity avait annoncé il y a quelques semaines de ça des changements dans son modèle de facturation, enfin de prix, qui avait fait d'énormes scandales dans l'industrie du jeu vidéo. Vous vous en souvenez, il voulait faire payer par unité téléchargée installée plutôt que par un pourcentage du chiffre d'affaires. Et Unity est utilisé par énormément de développeurs, dont plein de développeurs indépendants. Bref, ça avait fait une levée de bouclier monumentale. Ils avaient très rapidement paniqué et rétro-pédalé. Ils étaient revenus à un modèle beaucoup plus sérieux, beaucoup plus acceptable de pourcentage, en fait, comme d'autres, comme essentiellement Unreal. Et ce que je disais à l'époque, c'est que ça peut calmer beaucoup de gens, mais pour vraiment ramener la confiance, j'imagine que Ritello, il va finir par partir, genre discrètement, un peu avant Noël ou un peu après Noël, quand personne regarde. Il va y avoir un press release et il va se barrer. Et bien là, c'est arrivé un petit peu plus vite que je pensais. Il step down, comme on dit en anglais. Encore une fois, je vous fais profiter de mon bilinguisme. Il step down et on lui dit au revoir. C'est vraiment le genre de mec où on se dit pas « Ah oui, mais à telle époque, il faisait des trucs sympas à telle époque. » Personne ne l'a jamais aimé, je crois. En tout cas, depuis qu'il est connu.
Ouais,
bon, chez EA. Donc voilà, il n'y a pas grand monde qui va le regretter, je crois.
C'était lui, donc oui, c'était avant ça, il était, enfin, dans sa carrière, il a été chez Electronic Arts. C'est lui qui poussait pour éventuellement les trucs de microtransactions. Enfin, c'est qui se pointait, qui était enthousiaste avec toutes ses idées, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. C'est et là, il part à cause de ce move il y a quelques semaines de n'importe quoi. Eh ben, écoute, les choses sont plutôt normales, les choses tournent plutôt bien. je suis rassuré. Non, parce que ça avait fait paniquer plein de gens, évidemment, cette annonce avec Unity, des gens qui bossaient sur des projets et qui se résignaient, qui étaient en mode bon, bah, on bosse sur notre jeu, là, ça fait plusieurs années, bon, on va arrêter, en fait, parce que à cause de cette histoire de Unity, quoi. Donc, non, c'est bien que les choses, tu vois, que les choses
suivent un cours,
redeviennent un peu normales. Ouais. J'aime bien.
Il faut avouer que cette décision était quand même l'une des plus hallucinantes que j'ai vues dans l'industrie. Il y en a eu des décisions hallucinantes, mais là, avoir aussi peu de vision sur les conséquences...
Ouais, pardon, considération pour les... Pardon, vas-y.
Non, j'allais dire quelque chose de très intéressant. J'allais dire que c'est dommage, il avait un nom de Tortue Ninja, c'était un peu... mais peut-être qu'il a revendu... Peut-être qu'il a revendu toutes ses actions juste avant le move magnifique dont...
Ah, mais il l'a fait en plus. Je sais plus si c'était lui, mais il y avait des execs qui avaient fait du...
Bien sûr.
Qui étaient visiblement coupables de délits d'initié. Je crois qu'il
il les a pas toutes revendues. Il en a revendu 50 000 $, je sais plus. Enfin, quelle quantité, mais...
Oh, ça va.
Il doutait peut-être aussi qu'il était un peu sur un siège éjectable au moment où il l'a fait.
Merde.
Est-ce que
j'ai
le
envoyé...
prix de l'action a remonté depuis qu'on sait qu'il est plus dans la boîte? Ça, ça me...
Ah bah, j'imagine, oui, j'imagine. Mais c'est genre, tu sais, j'ai envoyé un mémo super bien écrit détaillant mon plan, mais j'étais bourré, mais en fait, il est hyper poétique. Je peux pas revenir en arrière. Tout le monde va rire de moi. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser en place, mais vendre des actions de la boîte quand même, parce que ça va décoller. Au moins. Je pense que grâce à toi, il a une reconversion toute trouvée parce qu'il peut partir faire une sorte de... Enfin, je ne sais pas, devenir une tortue ninja, effectivement. Oui, il aura un futur dans l'industrie de l'entertainment. Nodus, oui, vas-y. On t'a interrompu.
Mais du coup, maintenant, j'ai très envie que ce soit Michelangelo qui le remplace. Mais non, pour ce truc de Unity, malheureusement, en fait, le souci, c'est que le mal est fait, je pense. T'auras beau virer l'exécutif, le président de Unity qui est là depuis 2014, il y a beaucoup de devs qui, aujourd'hui, ont fait le switch vers d'autres moteurs et pour qui, en fait, un truc a été cassé dans la confiance qu'ils avaient en Unity et que Unity n'avait pas en eux. Il y avait, je crois que c'était sur Itch.io, là, il y avait la Ludum Dare, donc les Game Jam qui arrivent tous les 6 mois. Ils avaient fait des stats sur le nombre de... la répartition des moteurs utilisés dans la dernière Ludum Dare, et Unity était en clair déclin, et il y avait Godot qui avait repris du devant. Ouais, je pense que le mal est fait, et t'auras beau faire ce que tu veux, malheureusement, en termes d'image, Unity a pris beaucoup, ouais. La cassure est profonde.
Certainement, ils ont pris beaucoup, mais moi, je crois que c'est tellement compliqué de passer d'un moteur à l'autre, de dire adieu à toutes tes connaissances que tu as acquis. Alors évidemment, en plein développement, c'est quasiment impossible. Oui, pour une game jam où tu fais ton truc de zéro, tu vas prendre Godot plutôt qu'Unity, tu vas apprendre à l'utiliser, possiblement. Mais il ne faut pas oublier que Unity, comme d'autres moteurs, ont aussi des outils à côté de ça, des outils de monétisation, des outils de marketing, etc., qui faisaient partie d'ailleurs de ce plan. excellent, que Godot n'a pas parce que c'est un truc fait en open source par des gens très cool et je suis sûr qu'il est très bien.
Ouais.
Mais c'est pas le même, la même. Moi, je crois que Unity, là, ils ont fait ce qu'il fallait, revenir en arrière, reprendre un modèle qui est cohérent et virer. Peut-être, ça se trouve, c'était pas lui qui était à l'origine du truc, hein, j'en doute. Mais ça se trouve, bon, ils ont viré le mec pour sacrifier quelqu'un. Et je crois que le coût de partir de Unity est tellement gros que pour beaucoup, ça suffira. Mais on va voir, hein, ça se trouve dans deux ans, on verra que Unity est plus trop utilisé. Quoi.
Est-ce qu'il va partir chez Activision Blizzard ? On ne sait pas. Pour...
C'est incroyable.
C'est bien, ça.
Le mercato.
Franchement... Ça serait marrant que ça soit le dernier doigt d'honneur de Bobby Kotick avant qu'il parte. Parce que là, à ce stade, le rachat n'étant pas encore fait, Phil Spencer n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe chez Activision Blizzard. Donc il pourrait, en théorie, j'en doute. Hein. Je crois que là, il est devenu un petit peu toxique comme garçon. C'est un peu comme Phil Harrison, vous savez, qui a été chez Sega avec la Dreamcast, chez Sony avec la PlayStation 3, chez Microsoft avec la Xbox One et chez Google avec Stadia. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, il y a un truc. On ne sait pas si c'est de la malchance, une poupée vaudou quelque part, quelqu'un qui lui en veut, qui met des épingles, machin. Mais on va faire gaffe quand même. Je pense que Ricitiello, c'est un petit peu le même scénario. On dit Don Matrick dans la chatroom. Alors oui, clairement, lui, il s'est fait sortir aussi. Ou d'ailleurs, j'ai peut-être attribué à Harrison les échecs de Don Matrick. Mais il s'est planté vraiment une fois à Matrick. Il a disparu, parce que c'était un gros plantage. Mais ce n'est pas aussi spectaculaire que Harrison. Bref, cessons de dire du mal des gens. Qu'est-ce que vous me faites dire, là, tous les trois ? C'est honteux.
C'est factuel, c'est pas du mal.
Ah oui.
Avouons. Oui, juste un petit truc. Epic, bah, ils ont des difficultés aussi. On en parlait la semaine dernière. Et l'un des moyens pour limiter leurs difficultés, c'est qu'ils vont faire payer Unreal Engine. Alors attention, il ne faut pas comme Unity, mais ils vont faire payer Unreal Engine aux autres secteurs que le jeu vidéo, c'est-à-dire la télé et le cinéma, qui l'utilisent énormément. Et ils vont faire payer différemment avec des per-seat fees, c'est-à-dire que pour un poste, il faut payer. Et c'est intéressant qu'eux se dirigent dans cette direction. Mais visiblement, Epic, ils ont besoin de cash aussi. Et ils s'en sont rendus compte il y a 10 jours. On ne sait pas quels sont les détails. Enfin, il y a 10 jours, à l'époque où j'ai pris les notes, c'était Tim Sweeney qui disait, on s'est rendu compte il y a 10 semaines, il y a 10 semaines que vraiment on avait des gros problèmes financiers. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans la boîte.
De clôture ou en cours
Moi, je trouve que ça sent l'expert comptable qui voit un truc pourrir depuis des mois et qui n'ose pas aller voir Tim Sweeney, tu sais. Et genre, oh, à un moment, il faudrait que je lui en parle quand même. Et finalement, un samedi de juillet, il dit, bon allez, je vais aller le voir, je vais amener des hot dogs et ça va bien se passer. Alors Tim, on a un petit problème. Tu sais tout l'argent qu'on dépense. Figure-toi, tu vas rire. On l'a pas. Donc, qu'allons-nous faire ? Bref, parlons de choses un petit peu plus jeux vidéo ludiquesques et passons à... passons à la section jeux vidéo. Il y a un truc que j'oublie. Patreon, c'est très important aussi. Si vous aimez ce journalisme de qualité, ce reporting éthique, ces compétences multilinguistiques, vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Non seulement vous soutiendrez mon quotidien, ma vie, PlayStation Plus Premium de riche, payé par ma société, mais en plus de ça, vous soutiendrez vous-même un petit peu, je pense que ça pourrait améliorer votre bien-être puisque vous serez fier et heureux de soutenir un créateur qui fait des émissions que vous appréciez. Parce que vous êtes dans quelle situation aujourd'hui ? Les patriotes, ils n'ont pas ce petit instant promo là. Donc, ils n'entendent pas ce que je suis en train de vous dire. Ce qui veut dire que vous, si vous entendez ce petit moment promo, vous écoutez l'émission, vous l'appréciez puisque vous l'écoutez, j'imagine, mais vous ne la soutenez pas. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand même, est-ce que ça vous fait pas un petit peu mal à l'arrière de la tête ? Genre, oh, mais c'est quand même un peu... Eh ben, si vous soutenez tout ça, parfait, ça disparaît. vous serez heureux, fier et plein de bonheur. Donc, patreon.com/rdvjeux. Et si vous faites partie des gens qui soutiennent déjà et qui écoutent quand même, bah, double merci parce qu'en plus, vous soutenez avec l'argent directement et vous écoutez les pubs aussi. Donc, je suis très heureux de votre participation double. Allez, on va parler des jeux auxquels on joue en ce moment. C'est parti. J'ai trop parlé, donc je vais arrêter de parler et je vais donner la parole à Nodus.
Ah,
Nodus, on a déjà évoqué Cyberpunk un petit peu la semaine dernière et Counter-Strike 2 également. Mais Counter-Strike en particulier, c'était JK qui nous en a parlé. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas très bon, sur, tu vois, son expertise est limitée sur CS. Donc, je vais plutôt te faire confiance, toi, avec ton avis. Mais donc, notamment Cyberpunk... et Counter-Strike et Deep Rock Galactic Survivor. Dis-nous tout sur le premier.
Cyberpunk, écoute, figure-toi que j'ai relancé comme tout le monde, hein, puisque le jeu a eu sa mise à jour 2.0 et son DLC Phantom Liberty. Je n'ai pas encore vu la couleur d'Idriss Elba. Je veux vraiment voir où il est en jeu, mais pour l'instant, j'ai fait 35 heures et je ne sais pas où il est. Je voulais me le refaire parce que je l'avais fait à l'époque de la sortie et il m'était un peu tombé des mains. Je crois que parce qu'il était sorti... soit juste avant les fêtes de Noël, soit juste après, et du coup j'avais dû un petit peu le lâcher et j'y étais jamais retourné. Je me suis dit, écoute, vas-y, c'est la bonne occasion. Je me suis refait un perso et je me suis relancé dans Night City. Il y a pas mal de choses qui ont changé, mais il y a aussi quand même pas mal de choses qui n'ont pas vraiment changé. Je sais pas, mais enfin, il y a toujours des trucs qui me dérangent dans la narration, dans la façon dont c'est écrit. Ils auront beau mettre à jour le jeu sur la technique, mettre à jour le jeu sur le gunplay, sur plein de choses qui là en fait fondamentalement ont été améliorées. Ça reste un jeu qui, moi, je trouve, parfois me sort un peu de son écriture. Dès que Keanu Reeves prend la parole, par exemple, pour me parler de la taille de son organe, j'ai des petits problèmes avec ça. Et après, en fait, c'est marrant parce que j'ai une relation vraiment bizarre avec Cyberpunk. C'est toujours un jeu que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup m'y balader. C'est, je pense, l'une des meilleures villes que j'ai pu voir dans un monde ouvert. Juste la verticalité, l'immersion, le simple fait de te balader à pied. Parfois, t'as une destination qui a 1 km et tu vas te dire, bah vas-y, je vais faire voyage rapide ou voiture. Et en fait, parfois, le kiff, c'est juste d'y aller à pied et juste lever les yeux, regarder les gens qui sont en antipose ou les voitures qui rentrent dans le décor et lever les yeux et regarder quand même Night City qui est quand même, ouais, je trouve magnifique à ce niveau-là. Tout ce qu'ils ont amélioré, en vrai, ouais, c'est quand même bienvenu. C'est un jeu qui est plus dynamique et plus flexible qu'avant, même dans les compétences, etc. C'est quand même plus plaisant. Et je trouve qu'il y a quand même un noyau dont il n'arrivera pas à se débarrasser, quoi. Toute la technique du jeu, quand même, c'est assez... ça se voit encore, quoi.
Du coup, pour les gens qui... Il y a plein de gens qui l'avaient acheté et qui ne l'avaient pas lancé ou lancé un petit peu et arrêté, et des gens qui ne l'avaient pas acheté. Est-ce que tu penses, comme beaucoup l'ont dit, que la période Early Access est maintenant terminée et qu'on peut le recommander en tant que jeu tout court? Est-ce qu'il est bon, quoi? Est-ce que ça y est? Il est cuit ou toujours pas? Je suis pas certain.
Ah bah il est déjà beaucoup plus cuit qu'il y a 2-3 ans. Non, ouais, je pense sincèrement qu'aujourd'hui c'est un jeu qui est recommandable. C'est même un jeu, enfin, même si l'écriture parfois moi a tendance à me déranger, c'est quand même ultra bien mis en scène. Il y a quand même des quêtes qui sont, t'as des quêtes secondaires qui pour le coup valent vraiment le coup. C'est un jeu sur lequel moi je m'amuse. Enfin bon, je peux y passer des heures. Et là je suis retombé dedans. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut recommander aujourd'hui. Je pense que la période d'incubation est un petit peu passée. C'était long, mais aujourd'hui, c'est... En fait, c'est un jeu qui propose des choses. Là où vraiment, il y a... Je pense à sa sortie, il proposait des choses, mais c'était parfois compliqué de les voir, compliqué de les sentir comme elles étaient vues ou imaginées à la base par l'équipe. Là, on sent qu'il a vraiment... Il montre vraiment ce qu'il a envie de nous montrer de la façon dont il nous le montre. Et c'est ça que je vois et je perçois aujourd'hui. Et ça me plaît. C'est toujours très long. Notamment le début, donc si jamais vous voulez vous refaire une save et que vous l'avez peut-être déjà fait à l'époque, c'est vrai que le prélude il dure quand même 4-5 heures avant de rentrer dans vraiment le dur du monde ouvert. Mais par contre, ouais, c'est je pense le meilleur moment, la meilleure version possible pour découvrir le jeu, puisque c'est une version qui fonctionne. Donc ça, c'est ouais, déjà
c'est pas mal chose. Pour un jeu qui fonctionne. Bon, donc recommandable en tout cas,
ouais,
très bien.
Il coûte combien le DLC?
Il coûte un solide 30 balles. Voilà, plaisir.
Et ça te fait une longueur de jeu de combien? T'as une petite campagne de combien d'heures?
En gros, ils vont rajouter toute une nouvelle quête avec une nouvelle zone qui s'appelle Dogtown et qui en plus a un pitch qui m'intéresse de fou. C'est en gros un film de braquage. C'est un heist movie de 15-20 heures avec Idriss Elba et plein de missions où tu dois voler un truc à des corpos. Du coup, ça m'intéresse. Moi, je l'ai pas encore vu. Mais apparemment, ouais, donc ça ajoute non seulement ça, ça rajoute des quêtes, ça rajoute des boss, ça rajoute plein de choses que le jeu n'avait pas forcément trop à la base. Et ouais, c'est. Il y a pas mal de monde qui le voit comme la version définitive de Cyberpunk.
Mais même sans Cyberpunk 2.0 reste une amélioration cool. Enfin, le jeu est cool, même sans le DLC. Quoi. Counter-Strike 2, du coup. On en parlait un petit peu la semaine dernière avec JK. Il est sorti il y a quoi ? Deux semaines. Moi, ce que j'ai entendu, c'est les trucs sur les ombres qui permettent aux gens, j'en parlais aussi la semaine dernière, les ombres tellement réalistes que du coup, tu vois les gens venir et les gens s'en plaignent. Mais est-ce qu'il y a autre chose que ça dans cette mise à jour ? C'est juste une refonte graphique ?
Ils ont changé la texture des chaussures quand même. Après 10 ans, là, on est quand même content. Non, mais c'est toujours ce truc avec Counter-Strike, c'est que quand on parle, en fait, il y a toujours... Soit des gens qui vont voir que le jeu n'a pas changé.
Je bousille le son là, excusez-moi les auditeurs en cours. J'ai mal géré mon truc, mais maintenant ça va mieux se passer. Pardon, vas-y.
T'as soit des gens qui vont, dans tous les cas, voir que le jeu n'a pas changé en 20 ans, en 25 ans et qui ont raison, fondamentalement, c'est le même FPS et c'est le même jeu. Après, pour les gens qui jouent de façon assez régulière, il y a effectivement des changements. Il y a pas mal de changements mécaniques, notamment sur la compétition et le nombre de rounds. En fait, ils ont réduit les parties pour les rendre plus dynamiques, même plus agréables à regarder. Maintenant, il y a plein de stats qui s'affichent, des nouvelles animations et plein de choses de ce point de vue-là. C'est super agréable en fait de suivre ou même de participer à un match compétitif de CS2. Et il y a aussi que pour Valve, je pense, le changement est moins lourd. En fait, à chaque fois qu'un nouveau CS sort, c'est la même chose. Il y a toujours les gens qui vont le détester pendant 1, 2 ou 3 ans, le temps que Valve corrige les problèmes. Parfois un peu plus longtemps. CSGO à la sortie, c'était une catastrophe. À l'époque, ils venaient de mettre les cocktails Molotov qui niquaient complètement la méta. Il y avait plein de choses comme ça qui étaient vivement critiquées. Là, en fait, CS2 s'en sort un poil mieux parce qu'il a déjà toute la base de Global Offensive qui était là depuis 10 ans, sur laquelle ils construisent vraiment, c'est une mise à jour du jeu. Donc ça va se contrôler de la même façon, ça va se jouer de la même façon. Il y a quelques changements mineurs dans le comportement des armes, mais en fait, si tu as joué à CSGO, le changement, c'est vraiment de façon ultra intuitive. Tu lances CS2 et ouais, c'est vraiment majoritairement un changement graphique. Mais je suis très content parce que je retombe dedans et ils ont ajouté en plus un truc qu'ils devaient ajouter depuis très longtemps. C'est un nouveau mode classé, un nouveau mode compétitif qui est le mode première, ils appellent ça. En gros, CS2 comme CSGO est un FPS free-to-play. Et pour les gens qui ont envie de pousser le délire un peu plus loin, et notamment de faire de la compétition en dehors de, avec les moldus sur les serveurs publics, tu peux payer la modique somme de 15€ pour avoir un statut prime et jouer là en compétitif avec le haut du panier.
C'est genre 15€ une fois pour toutes ou une fois par saison ou...
Non, c'est un pass que tu achètes une fois et tu as le statut à vie. Tu as même le statut à vie si tu avais déjà joué à CSGO depuis la sortie, tu n'as pas besoin de le racheter. Donc ça, c'est bien. Mais c'est en fait, je pense, le meilleur endroit pour jouer en compétitif à CS parce que déjà, le simple fait qu'il y ait une barrière financière à l'entrée du mode compétitif, bien ça sûr. Fait que tu vas quand même avoir des gens qui sont plus investis. Qui vont pas quitter en cours de partie ou qui vont pas commencer à insulter tes parents sur 13 générations au deuxième round de la partie. Qui arrive toujours.
T'es sûr hein. Oui, j'allais te demander. Ça arrive pas au bout d'un moment quand même.
Ça bouge pas. Hein. Ils auront beau changer ce qu'ils veulent ou ne rien changer. Les gens seront toujours les mêmes. À chaque partie, t'as un mec qui va insulter ta mère. À chaque partie, il y a un mec qui. Alors qu'il gagne, 8-2, il va se déconnecter. Et juste, il a plus envie de terminer la partie, il va se déconnecter. Et ça arrive encore tout le temps, même pour les gens qui payent 15€. Donc oui, ça reste CS.
Si c'était sur PlayStation, je t'aurais dit c'est un chat qui a fait tomber la console, tu vois, sur la PS5, mais c'est sur PC généralement plutôt.
Ouais. Donc non, moi je suis très content. En fait, ça rafraîchit une formule vieille d'il y a 20 ans sans forcément trop la bouger. Et à chaque nouveau CS, à chaque fois, je suis content parce que j'ai l'impression de redécouvrir un nouveau jeu alors que c'est juste un gars qui est venu chez moi, il a... changer la position des meubles et il a bougé un cadre et il me dit hey, voilà ta nouvelle maison et moi je suis là putain c'est trop bien vraiment je suis content, merci.
Ça peut suffire parfois pour pour renflammer la flamme, comme on dit. Rekindle the flame, vous savez, moi je parle bien anglais. Donc.
Raviver. Ouais.
Voilà, c'est ça, raviver la flamme.
Parce que je suis bilingue aussi, en fait. On est... c'est pour ça.
Il y a quand même une question, c'est est-ce que ce fameux pass pour plus jouer avec les moldus, est-ce que Mehdi et moi, on peut le payer avec notre société ou... Oui, quand même, je pense qu'on peut. Hein, donc,
mais je pense même, évidemment. Une
oui,
note
oui
de frais,
c'est très bien, très bien.
Ça passe.
On peut en prendre deux même, et tu vois.
Je pense même qu'avec avec l'argent de la boîte, vous pouvez vous prendre des petits skins de couteau à 600
yes
balles.
Ah, pardon, excuse-moi, à combien?
Bah attends, mais 600 balles, c'est pas cher. Il y a des skins de couteau qui, alors là
ouais,
je crois que c'était il y a quelques semaines,
ouais, pardon,
on a battu le record du skin le plus cher, je crois qu'il s'était vendu quelque chose comme 600 balles, 600 000 balles, pardon.
Ah pardon, 600 000 balles.
Il y a un skin de Dawap, donc le fusil de précision le plus joli de CS, ouais, qui s'est vendu. Alors attends, je vais te retrouver le prix, la petite.
Ah ouais, 600 000, ça sort un petit peu du budget de la boîte là quand même, 600 000.
Mais c'est quoi, il y a des flammes sur le c'est quoi comme,
pardon, 2 millions de dollars. C'était
mais c'est un scandale.
Mais
moi qui suis content quand je vends mes autocollants à 10 centimes sur Steam, là, c'est chaud.
Mais en fait,
parce que c'est un marketplace et c'est entre les joueurs, hein, on est d'accord. C'est
voilà,
pas,
c'est
pas
problème,
Valve
c'est pas
qui vend
le
truc
couteau
à 2 millions, c'est qu'il s'échange entre les joueurs. Bon, Valve en fait qu'un de ce type-là, et donc forcément, il est plus cher que les autres. Mais...
Valve, il se prend quand même, ils se prennent 30% à chaque vente d'objets, donc les 30% de 2 millions.
C'est 30%
qu'ils prennent. Ouais, ils se prennent à chaque... en gros, enfin, c'est très compliqué comme milieu parce que tu as à la fois le marché gris où les gens s'échangent des skins et les revendent pour de l'argent réel sur des autres sites tiers. Là, en l'occurrence, Valve se prend pas de commission parce que ils font ça en dehors de l'écosystème de Valve.
Ah, tu peux envoyer skin gratuitement ? C'est possible à faire dans le jeu ?
Ouais, en fait, tu peux, quand tu vas looter un skin, par exemple, sur CS, après, tu peux les échanger avec les joueurs gratuitement.
Ah oui,
par contre, tu ne peux jamais, dans l'écosystème de Valve, tu peux jamais les vendre contre du vrai argent. Sauf sur le marketplace de Valve, mais c'est dans ton portefeuille Steam, c'est de l'argent qui reste sur Steam. Donc là, ce que les gens y font, c'est...
Ah, donc
voilà,
le mec, il a vendu le truc 2 millions, Valve a pris 30%, donc il a chopé 1,3 million sur son compte Steam.
Non, alors non, justement, heureusement, parce que 1,3 million sur ton portefeuille Steam, tu fais pas grand-chose avec, enfin, c'est un peu chiant.
Bah, c'est ça.
Un peu d'avoir...
Tu peux t'acheter tous les jeux.
Tu peux t'acheter vraiment tous les jeux, ouais. Non, mais là, en gros, ce qui...
C'est trop bien.
Oui, c'est ça.
Ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent sur des sites tiers. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment un skin... c'est un skin qui était recherché depuis des années. Et en gros, un couteau particulier avec un état particulier du skin. Et chaque skin de Counter-Strike a un comment dire... Comment... Enfin, tu sais, une seed, en gros, un schéma de dispersion pour les couleurs et tout. Et ce couteau-là était particulièrement recherché depuis des années. On savait que c'était un mec qui l'avait. Et là, moi, ce qui me choque, c'est pas tant que le couteau soit vendu qu'il ait ce prix-là, c'est qu'il y a un mec qui a quand même fait un virement de 2 millions de US dollars pour acheter un couteau, quoi. C'est bon.
Donc, écoute, je crois qu'on n'est pas forcément dans le bon métier. Hein. Y aurait des trucs à réfléchir. D'accord, très bien.
Et c'est pour ça qu'après... En vrai, on rigole, mais après, tu as les grands éditeurs qui lancent des idées pour dénoncer personne. Des idées de NFT dans les jeux vidéo, tu m'étonnes avec des anecdotes comme ça, et les mecs se disent qu'ils doivent pouvoir se faire
parler. Bah oui, c'est ça.
C'est ce que j'allais dire. Dire que le NFT n'allait pas changer la nature, enfin, ne changerait pas la nature du design des jeux, c'était complètement... Bref. Ok, très bien. Avant que tu nous parles de Deep Rock Galactic Survivor, du coup, je vais donner la parole à Mehdi pour qu'il nous dise à quel jeu il a joué récemment, lui aussi.
Je viens de sortir, là, il y a quelques jours, je suis sorti de... Mais tu as dû en parler dans tous les sens avec tes invités, Patrick, de Baldur's Gate 3. Je l'ai enfin terminé, après 275 heures.
On en a parlé effectivement, mais personne ici ne l'avait terminé, donc je suis très curieux d'avoir ton avis maintenant que tu es au bout, quoi. Combien tu dis 275 heures ?
275 heures. Après, je prends mon temps. Je regarde toutes les caisses, j'ouvre tous les sacs. Donc c'est pour ça que ça prend du temps en réalité.
En même temps, je pense que ce genre de jeu.
Combien de reloads ? Je compte plus. Non, ça n'a. je suis un save scum définitivement.
Il fait tout, enfin, ouais, il peut plus rien faire comme ça, le jeu. Clairement.
On peut plus rien faire pour moi. Ouais, bah après, il peut être joué aussi sans reload ta sauvegarde et puis en acceptant le résultat de ton jet de tes jets de sauvegarde. Ouais. Mais en attendant, ouais, 275 heures pour tout terminer, pour avoir vraiment chaque fin avec chaque personnage, les outcomes, les issues, avec chacune de des personnes qui m'accompagnent, que ça soit exactement comme j'avais prévu que ça serait, en cohérence avec les choix que j'avais faits durant l'aventure. Et très clairement, enfin bon, ça sert à rien que je me pointe et que je dise, vous savez, c'est un très très bon RPG. Non mais il a d'énormes qualités. Il a d'énormes qualités, moi j'ai noté, en tout cas, enfin, objectivement, je pense que...
Tu crois, tu crois qu'on pourrait le considérer peut-être comme candidat au jeu de l'année, potentiellement?
Je pense qu'il a, voilà, il a peut-être son épingle à tirer de... Non, c'est un excellent jeu, c'est un jeu, enfin, il y en a un comme ça tous les... je sais pas quand. Et ce qui m'intéresse en particulier, j'ai même pas envie de vous parler des mécaniques, etc., c'est du jeu de rôle, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi en jeu vidéo du jeu de rôle papier, de la soirée jeu de rôle à laquelle tu joues avec tes jets de sauvegarde, avec l'éventail des possibilités et tout. Enfin, ça a dû être une vraie galère pour eux, mais ça a été fait de manière très professionnelle. Ce que j'aime bien ces derniers temps, c'est regarder le cast, les voix des personnages qui t'accompagnent, des personnages comme Astarion ou Ombroker, etc. Voir ces comédiennes et ces comédiens faire déjà des parties de jeux de rôle, et puis utiliser leur voix, et puis être mis un petit peu... être un peu...
célébrer. Dans des situations particulières
parce que le taf sur les personnages, sur l'histoire, bon, tout connaît le côté narratif et tout, c'est de la dinguerie. Il y a des twists dans tous les sens, jusque très loin dans le jeu. Enfin, j'ai adoré, mais il y a clairement une performance des comédiennes et des comédiens dans ce jeu là un truc qui fait que, mais il y a de la technique, attention, les expressions du visage, etc., ils ont réussi à choper quelque chose, l'Ariane, là-dessus, c'est vraiment convaincant. Mais aussi dans l'acting, dans la voix, il y a quelque chose qui rend vivant l'aventure.
Qu'on ne retrouve pas ailleurs, par rapport à d'autres RPG spécifiquement.
Qu'on retrouve un petit peu ailleurs, mais avec un petit peu peut-être moins de talent, un petit peu moins de choses qui convergent vers pas de la perfection, mais en tout cas, les personnages, t'as envie de les faire avancer dans leurs histoires, les compagnons, voilà, les compagnons qui t'accompagnent, t'as envie de vivre les romances avec elles et eux.
C'est une des questions que j'allais te poser. Le truc important, combien t'en as chopé? Combien t'en as pêché, alors, tu vois?
J'ai dû en parler pour une hot take sur l'émission sur le Twitch d'Arte, là, tu sais, ouais. Jour de Play. J'ai parlé justement des romances.
Je connais un peu le rédac chef de Jour de Play.
Ouais, on a entendu parler.
Un peu simple, mais sympa.
Ouais, je vais le voir demain. J'en parlais, et donc pour le boulot, je crois que peut-être à part Carlac, donc la celle qui vient des enfers avec les cornes très grandes, très musclées, très charmantes, à part elle et Jaira, mon grand regret. Celle qui était
tu viens de me spoiler.
Je l'ai pas encore. Ouais.
Oh, pardon. Mais c'est
alors,
trop bien.
Moi, je suis à 70 heures et je viens de commencer l'acte 2. Donc.
Mais c'est pas grave.
Il y a d'autres personnages bien cool que peut-être.
Non, mais ne spoil pas les autres aussi en plus.
Non, je ne spoil pas. Mais c'est pour dire que t'as encore de la surprise derrière. Mais voilà, à part ces deux-là, je crois que j'ai.
Est-ce que t'as pécho la comment elle s'appelle, celle qui est un peu chauve-souris?
Chauve-souris, ouais. Ah non, peut-être que je l'ai tuée, elle.
Oh non, sérieux?
La drow, l'elfe noire?
Non, je pense qu'il parle de la geek, non ?
Oui, oui.
Ah,
c'est
pardon,
ça,
chauve-souris ! Ah oui, dès le premier soir.
Oui, mais pareil. Moi, elle m'a sauté dessus. Elle m'a sauté dessus, genre au bout de deux soirs. Et elle est intense, mais ça m'a étrangement pas déplu.
Ah
mais,
oui, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà, qu'elle prenait pas de détour.
Mais Gale, est-ce que t'as pécho Gale, voilà. Parce que c'est lui qui est le plus, tu vois.
Bien sûr, oh là là. Et lui...
Je pense que tout le monde
j'aimais,
a fait
j'aimais, bien, ouais. J'aimais bien les phases de quand il se mettait en position de courtisan, parce que c'était vraiment gay, je sais pas si tu te souviens, mais c'était « Viens avec moi derrière, je vais te montrer un tour de magie. » et donc, du coup, c'était vraiment ça. Physiquement, il te le dit. Et je vais te montrer un truc de magie. Et donc, t'as été là dans l'appréhension. En te disant, merde, est-ce qu'il va me faire le coup de, bah, tu vois ça, hop, ça disparaît, hop, ça réapparaît, hop, ça disparaît.
Ah non, mais vraiment.
Et là, t'es là, oh mon Dieu, s'il fait ça, je panique, qu'est-ce que je fais, j'efface ma sauvegarde. Et en fait, non. Donc, bien sûr, bah, c'est ça qui est bien avec les sauvegardes, c'est que tu peux explorer plusieurs branches. Et voilà, mais je voudrais insister sur la performance des comédiennes de doublage et des comédiens de doublage qui étaient... tellement, tellement bonne que au bout d'un moment, c'était moi quand j'y jouais, c'était
eux,
je vais
quoi,
voir mes amis.
Trouver, ouais.
Je vais aller voir mes amis, c'est ça. Je vais aller voir mes amis, je vais essayer de faire des belles choses pour elles. Et je suis assez content que les semaines qui ont suivi la sortie du jeu, et encore maintenant, les projecteurs soient aussi un petit peu en partie sur elles et eux, qui font, voilà, bah, qui vivent aussi leur vie d'après Baldur's Gate 3, parce que c'est pas facile, que ce soit pour les gens qui ont travaillé dessus, parce que du coup, la barre, elle est plutôt haut, vu que le jeu excelle quasiment dans tous les domaines, et c'est pas facile aussi pour les joueuses et les joueurs de sortir d'une telle expérience, parce que qu'est-ce que tu fais après ? Tu joues à quoi ? Quand t'es un peu dans les RPG occidentaux ou RPG, tu joues à quoi ? C'est ça le truc.
Ouais,
donc c'est à la fois un grand vide, mais une grosse satisfaction. Clairement, pour les personnes qui sont dans le RPG, dans le jeu de rôle de manière générale, que ce soit papier ou autre part, clairement, tu te plantes pas en disant si, allez sur Baldur's Gate 3. T'as pas besoin de faire les deux premiers. C'est mieux, Iscariatoire, tu vois, si tu... Mais c'est mieux si tu les as fait, mais honnêtement, ça, il se prend comme ça et c'est un chef-d'œuvre.
Il y a des gens dans la chatroom qui ont une petite suggestion pour ce que tu peux faire après. On te dit, bah, tu te refais un run, tu fais un reroll, tu vois.
C'est ce que je compte faire et j'aimerais bien le faire en coop parce qu'il y a aussi cette possibilité de jouer à plusieurs, ce qui est susceptible de m'ouvrir un autre monde, une autre manière d'approcher l'aventure qui peut être géniale, quoi. Donc c'est ce que je veux faire, pas tout de suite,
à un moment.
Moi,
mais du coup,
que en coop avec mon frère, ouais, du coup j'avance très très lentement,
ouais,
mais c'est un vrai pied, franchement. J'ai l'impression de refaire du jeu de rôle sur table comme j'en faisais avec lui et c'est un bonbon, quoi, franchement.
Du coup j'ai une question pour toi, Médoc, maintenant que tu l'as fini. On a tous parlé de la question des choix et du fait que, quel que soit ton choix, le jet de dés que tu fais, tout est pris en compte, tu peux vraiment vivre ton aventure. Tu nous dis maintenant que le jeu d'acteur et donc le scénario, j'imagine, valent le coup de suivre jusqu'à la fin. C'est intéressant, c'est passionnant, tu t'attaches au personnage. Donc j'ai un petit peu envie de te demander, maintenant que t'en sors, est-ce qu'il a un point faible, ce jeu ? Parce que j'ai l'impression que, de tout ce qu'on en entend dire et de tout ce qu'on entend parler pour les autres jeux qui sont sortis cette année, c'est celui qui a l'air le mieux ciselé, le plus parfait. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'a pas de point faible, finalement, pour ce qu'il est, hein, bien sûr.
Il en a, si tu as envie un petit peu de pinailler. Le truc, c'est qu'il émerveille tellement que, du coup, ça occulte vraiment les petits points faibles. Mais dans la mesure où je suis dans le métier depuis plusieurs décennies maintenant, je peux les relever pour toi, Patrick. Par exemple, j'étais en train de parler du jeu des comédiennes et des comédiens et du doublage, etc., qui est encore une fois excellent, vivant, et tout ce que tu veux. Simplement, techniquement, il arrive, je veux dire, il y a tellement de... Des heures et des heures d'enregistrement, des kilomètres de script, etc., il peut arriver que, au sein d'une même phrase, d'une même discussion, tu retrouves chez la personne qui double, tu retrouves pas la même énergie, la même intensité entre deux phrases, tu sais, vu qu'il y a plusieurs choix, t'es amené quand t'enregistres ça à dire toutes tes phrases bim 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 en fonction de ce que les gens qui jouent choisissent, et donc quand tu recolles les phrases speakées, eh ben tu peux des fois te trouver dans des situations où il n'y a pas exactement les mêmes conditions, il n'y a pas exactement la même énergie dans le speak, et des fois ça peut s'entendre, mais tu vois le niveau.
Pinaille, je comprends, ouais.
Mais voilà, c'est ça.
Faut aller pinailler,
c'est ça. C'est ça, parce qu'autrement, et puis évidemment encore, il y a quelques bugs, mais limite, je trouve que ça fait partie du charme de ces computer games, en fait, les gros RPG sur PC. Moi, je t'avoue que j'aime bien quand il y a des petits bugs. Ça veut dire que je sais pas. J'aime bien. C'est un charme. C'est vraiment.
C'est authentique. Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais il y a encore ça. Autrement, le seul truc que tu pourrais lui reprocher, c'est si c'est pas du tout ta cam, c'est-à-dire que t'es pas du tout dans les RPG, t'aimes pas le principe d'expérience, t'aimes pas les choix moraux, t'aimes pas, tu préfères. Tirer
Duty,
ou acheter des skins à 600 000 ou à 2 millions. Si c'est ça, alors c'est pas pour toi. Pour tous les autres profils, évidemment, c'est le jeu, il n'y a pas beaucoup de défauts.
Tu me donnes envie de le relancer, là. Oh là là, bon,
okay. Moi, je trouve que la gestion de l'inventaire, et c'est souvent la difficulté dans ces jeux-là, elle n'est pas incroyable.
C'est vrai. Gestion de l'inventaire et également de ton groupe aussi, quand tu as envie de changer de personne. T'aimerais avoir une touche où, et puis tu drag and drop des personnes et puis basta, quoi.
T'as toujours en plus ce moment un peu gênant où tu dois aller voir le gars et lui dire bon écoute on s'est bien amusé je pense que tu dois rester au camp.
Ça me fait mal au cœur systématiquement. C'est vrai, j'aurais aimé qu'on m'épargne ça. Donc non, mais c'est vrai ce que vous relevez. Tout à fait.
Bon écoute, ça me rappelle à quel point il risque d'être omniprésent dans les discussions de fin d'année et j'ai très envie de le relancer lui aussi. Juste un petit mot pour signaler aux auditeurs que dans la newsletter, ce qu'on va faire, c'est que vous savez que j'envoie une newsletter tous les vendredis avec des news tech, des news gaming, le résumé de la semaine, les trucs à savoir. Je vais y ajouter les jeux dont on a parlé dans le rendez-vous jeux. Donc, il y aura une liste de tous les jeux. Et en plus de ça, je vais y mettre un lien vers les parties de Donjons et Dragons avec l'équipe de Baldur's Gate 3 qu'on nous a partagé dans la chatroom. Merci beaucoup à la chatroom. Donc, on intégrera ce lien aussi. Si vous voulez voir ce que ça donne, vous pourrez l'avoir. Et je mets tous ces liens dans la newsletter pour vous y abonner. Les liens sont dans les notes de l'émission. Et un autre truc qu'on pourrait suggérer à Médoc, qui, je crois, pourrait gratter les mêmes côtés. Vous savez, moi, je parle bien anglais, donc je pense à l'expression « to scratch the same itch ». Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas très bien comment le traduire. Je crois qu'Escarina pourrait avoir une recommandation avec le jeu qu'elle vient de finir.
Mais oui, mais Médoc la connaît, puisqu'il l'a déjà faite dans le Cozy Corner, cette reco.
Tu l'avais fini Mais oui, je vous ai même entendu en parler. Vas-y.
Donc c'est Sea of Stars. Bon, je rajouterai pas beaucoup plus que ce qu'il y a déjà. Je pense que ça a déjà été abordé. On en avait déjà parlé.
J'en avais parlé aussi. Ouais.
C'est Moguri juste pour truc. C'est Moguri qui m'a parlé de. Il me semble que moi, parce que moi j'ai pas fait Sea of Stars.
Ah tu l'as pas fait. Je pensais que c'était
non. Mais
c'est toi qui l'as.
Non mais moi c'était parce que Chained Echoes. Tu vois, mais c'était, on est sur du rétro, on est sur du... Mais évidemment, je l'ai monitoré, celui-là.
Moguri, on n'est pas hyper enclin à écouter ses conseils. Donc, je comprends que tu ne te sois pas habitué après qu'il t'en ait parlé. mais du coup, maintenant qu'Escarina va te le recommander, j'imagine que ça va avoir un petit peu d'impact.
Mais là, je suis attentif.
C'est ça.
Eh ben oui.
Ce jeu est incroyable. Non, franchement, si tu cherches un petit palliatif à Baldur's Gate 3, alors dans un tout autre style, mais là, on est dans le RPG au tour par tour, rétro, hyper bien fait. Moi, ce jeu, il est incroyable. Il me surprend. Là, j'en suis à presque 25 heures de jeu. Il y a des twists dans le scénario, des twists visuels, des twists musicaux. Enfin, c'est incroyable. Ce jeu, il me retourne le cerveau. Je ne peux pas tarir d'éloge. Alors effectivement, c'est un jeu vraiment hommage au RPG rétro de ce style-là. Alors il avait été, je sais plus, Moguri le compare à Chrono Trigger, je pense, mais moi je l'ai pas fait Chrono Trigger, donc je veux pas dire de bêtises.
C'est Chrono Trigger et Golden Sun les inspirations généralement.
D'accord.
Mais effectivement, ils ont réussi à twister un petit peu le jeu, et c'est pas vieillot, c'est pas rétrograde, c'est rétro mais pas rétrograde dans les mécaniques de gameplay. Ils ont vraiment réussi à insuffler de la modernité dans les mécaniques, notamment les mécaniques de combat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je leur dis que j'adore le RPG au tour par tour, ils sont un peu crispés parce que ils imaginent effectivement les vieux Final Fantasy où c'est très long, un peu rébarbatif. Là, ils ont vraiment réussi à moderniser les combats. C'est rarement la même composition de monstres en face. Il y a presque un petit jeu de rythme un peu musical. Faire
Mario RPG type.
Ah ouais, je l'ai pas fait non plus. J'attends le remake. J'ai du retard à rattraper sur certaines licences. Et donc voilà, en fait, ils ont vraiment réussi à mettre à la poubelle, on va dire, les défauts qu'on pouvait trouver à ces vieux RPG. Alors, je trouve qu'au niveau de l'écriture, c'est pas mal. Je trouve qu'on tombe quand même toujours un petit peu dans les clichés du JRPG. Alors, je crois pas que ce soit un studio japonais ni rien, mais je trouve
Sabotage, c'est des Canadiens, je crois.
Oui, tout à fait, c'est ceux qui avaient fait
Messenger, évidemment. Messenger.
Oui, ouais, tout à fait.
Je trouve que dans certains aspects de l'écriture, dans certains chara-design, on retrouve un petit peu des choses qui, moi, me plaisent pas trop. Après, voilà, c'est purement personnel. Mais malgré tout, le scénario est étonnant. Enfin, je trouve qu'il nous emmène dans des trucs... Enfin, moi, là, je suis arrivée à un tournant du jeu, mais j'étais scotchée devant mon PC. Je me disais, mais je m'attendais à tout sauf à ça. Ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est beau, la musique est incroyable. Il y a 3 ou 4 compositeurs, dont le compositeur de Chrono Trigger qui a fait quelques morceaux. C'est une aventure. Je suis transportée, je suis dans l'histoire. Je suis étonnée, vraiment, c'est un beau... C'est, encore une fois, c'est un bonbon, ce jeu, je le consomme par petits bouts parce que j'ai pas envie que ça se finisse, je sais que j'approche de la fin. Donc pour tous les gens qui aiment ce style-là, c'est vraiment super bien fait. Allez-y, quoi, vraiment, c'est un très beau jeu, un très chouette jeu qui mérite d'être connu.
Sea of Stars, donc, qui est disponible un peu partout.
J'ai envie d'y jouer.
Ah ouais, non, franchement, il est incroyable.
Tu es tombé dans le mini-jeu de la roulette, celui où tu dois ramasser les petites figurines et tout, là.
Oui, mais je vais t'avouer un truc qui va me faire passer pour une grosse débile, je pense. Je n'ai pas trouvé comment avoir d'autres figurines, donc je suis coincée avec les deux figurines de départ.
Tu dois juste faire des combats, en fait. Enfin, tu continues à faire des trucs de roulette et parfois, ils vont t'enfiler. Mais alors, c'est un peu cryptique de ce point de vue-là. Il ne t'explique pas comment gagner des nouvelles figurines. Il ne t'explique pas forcément trop les règles et certaines nuances du truc. C'est un mini-jeu qui est très cool, mais parfois, on ne comprend pas tout, quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, effectivement, c'est assez original, mais je me fais très vite poutrer. Hein. Je réussis les niveaux simples. Je n'ai pas été au-delà, donc...
Il faut les faire en expert pour avoir les figurines.
Ouais, je vais essayer, hein, mais je promets rien.
Bah, si t'as pas envie qu'ils se finissent, tu peux repartir au début pour trouver tous les joueurs de roulette et te relancer. Hein. C'est comme le...
Oui.
Comment il s'appelait dans The Witcher 3, le jeu de cartes, là, qui était...
Le
Gwent, merci, oui.
Le Gwent, bien joué.
On nous rappelle d'ailleurs...
Compliqué. Faut relire. Moi, j'ai relu le tuto, le guide, 2 ou 3 fois pour bien comprendre toutes les subtilités parce que je suis passé à côté de certains trucs. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est sympa, c'est original pour le coup.
On nous rappelle dans la chatroom, merci, qu'il est disponible sur le Game Pass et sur le PS Plus, même pas PS Plus de riche, le PS Plus normal.
Ouais.
Donc,
je vais le prendre du coup.
Bah voilà. Et il est aussi sur PC et sur Switch, enfin il est partout, mais si vous êtes abonné à l'un de ces services sur PlayStation ou Xbox, vous l'avez déjà, donc pas de raison de se priver.
Il coûte pas très cher, il coûte une 30aine d'euros, vraiment pour la qualité du jeu, c'est... Vous pouvez y aller les yeux fermés.
On va revenir, parce que moi j'ai pas vraiment eu le temps de jouer, donc j'ai joué à rien. C'est-à-dire que même Overwatch, avec la nouvelle saison, j'ai pas eu le temps de jouer du tout. Enfin bon, j'ai fait genre une partie, quoi, ou deux. Mais donc vraiment, j'ai pas du tout eu le temps de jouer. Donc on va revenir à Nodus, qui compense, en nous parlant d'un autre jeu qui... alors, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, et c'est un mode qui est un petit peu plus ancien. Et il y a un autre mode qui arrive, mais c'est pas celui-là dont tu voulais parler. Tu voulais parler de Deep Rock Galactic Survivor.
Ben, tu vois, c'est déjà un bordel. Mais
c'est
normal.
C'est des nains.
Mais oui.
Tout à fait.
Il est bien ce jeu.
Alors, il y a donc sorti en 2018, puis après en finale en 2020. Peut-être que vous avez joué à Deep Rock Galactic, qui est en gros un super FPS coop, le meilleur Left 4 Dead 2 depuis Left 4 Dead 2.
Yes.
Où 4 nains vont devoir aller explorer une mine et récolter un maximum de minerais tout en butant les vagues d'aliens qui leur arrivent dessus. Le jeu, il s'est étoffé de fou, il y a eu plein de mises à jour, des saisons. À chaque ajout, genre vraiment, il n'y en a pas un qui tape à côté. L'équipe est vraiment motivée et j'ai relancé le jeu hier, c'est incroyable. Mais là, c'est pas ça dont je voulais parler. C'est qu'ils se sont dit, bah, tu sais quoi, le jeu marche trop bien. On va en faire une licence. On va en faire une licence avec plusieurs jeux.
Ah ouais.
Et donc, ils ont annoncé, donc, en plus du FPS de base Deep Rock Galactic, deux nouveaux trucs. Le premier, c'est celui qu'on voit là, qui, pour les gens qui suivent le Twitch, Deep Rock Galactic Survivor, qui est en vue de dessus. Et il s'appelle Survivor pour une raison très simple, c'est vraiment un rip-off de Vampire Survivor. Donc c'est exactement le même gameplay, tu vas juste bouger ton petit personnage, le seul contrôle du jeu c'est bouger le stick, ça tire tout seul, ça mine tout seul, ça récupère les objets tout seul, voilà, tout est fait automatiquement, tu peux vraiment jouer avec une main dans le slip et une main sur le stick.
Est-ce qu'on utilise vraiment cette expression dans ce cadre-là?
Personne n'utilise cette expression.
Nous t'en laissons la paternité.
Je m'en suis voulu en la faisant. Je me suis dit, en fait, elle rend moins bien. Elle rend moins bien en vrai que dans ma tête. Tu vois, j'adore. Mais bon.
Est-ce qu'elle valide? Donc c'est bon.
Quoi qu'il en soit. Donc ouais, en fait, enfin, c'est le même principe que Vampire Survivors, mais il y a aussi des nuances, notamment, bah, en fait, ils ont repris toutes les mécaniques de Deep Rock Galactic, donc tu vas devoir récupérer du minerai qui va servir à améliorer tes armes et ton perso, et il y a un truc de fou que Vampire ne fait pas, c'est la composante minage, parce que maintenant, dans Deep Rock Survivor, quand tu t'approches d'un rocher, enfin d'un caillou, tu vas pouvoir commencer à creuser des galeries automatiquement, et donc gérer un petit peu plus les déplacements des ennemis. Donc les grosses vagues d'ennemis, d'aliens qui t'arrivent dessus, bah tu peux commencer à les faire passer par des petits chemins, tu peux, voilà, tu peux créer des pièges, même limite pour elles.
Sculpter ton environnement pour stratégiquement avoir moins d'ennemis qui arrivent en même temps ou les rediriger ou ce genre de choses, c'est ça?
Bah, là où Vampire Survivor, c'est quand même juste bouger, ce qui est très bien, hein, mais bouger et à un moment tu vas heurter un mur ou heurter un élément de décor et voilà. Là tu peux vraiment détruire un petit peu le terrain et façonner le niveau comme tu le veux. Et donc voilà, ça sort l'an prochain, mais là, ce qui est fabuleux, c'est le Steam Next Fest, qui est le festival de démos de Steam. Voilà, tous les 6 mois, vous pouvez jouer à des tonnes et des tonnes de démos. Et cette démo-là en fait partie. Je pensais vraiment que ça allait être juste un clone de Vampire Survivor, et en fait, j'y ai déjà passé 4 heures, parce que juste, c'est du crack. C'est ultra bien pensé, c'est addictif, c'est très très bien. Et la courbe de progression est très bien aussi, il y a moyen de faire pas mal de choses au niveau des classes et tout, c'est vraiment très dangereux d'y toucher, mais je le conseille.
Ça s'achète sur quelle plateforme, ça?
C'est sur Steam pour l'instant, mais la démo est gratuite. Et après, je pense que ce sera sur console et tout aussi.
Mais il n'est pas sorti, hein, on est d'accord. C'est juste la démo disponible à ce stade.
C'est juste une démo, ouais.
Et du coup, puisque tu connais la licence, pour faire encore plus mal à Mehdi qui, là, à chaque fois qu'on mentionne un jeu, se dit « Oh putain, il va falloir que je m'y mette aussi. »
Non, mais c'est clair.
Deep Rock Galactic Rogue Core. C'est un autre jeu dans cette licence, c'est...
En fait, les trois dont on parle là, c'est pas des modes ou quoi, c'est effectivement trois jeux différents. Ils ont réannoncé en fait des jeux standalone. Et ce que tu vois là, c'est Deep Rock Galactic. Alors non, celui-là, c'est celui de base, je crois. Mais ou peut-être que
non, c'est Rogue Core. En fait, là, c'est bien le trailer de Rogue Core.
En gros, Deep Rock Galactic de base, c'est un FPS. Survivor, c'est un truc en vue de dessus. Et Rogue Core, c'est un autre FPS. Et qui, cette fois-ci, est un roguelite. Tu vas, en fait, après chaque run, après chaque exploration de caverne, récupérer des atouts, des améliorations, des machins, et chaque partie va être différente. C'est déjà un peu le cas parce qu'il y a de la génération procédurale dans le jeu de base, mais là, ils ont vraiment, vraiment conçu ça comme un roguelite où tu vas avancer comme dans un Slay the Spire avec des embranchements, des machins et tout.
Donc solo,
ouais.
D'accord.
Mais attends, donc c'est... Peut-être
comme avec les Legends, en fait, à décliner comme ça sur différents...
Jusqu'à 4, pardon, Médoc. Jusqu'à 4. Donc solo ou jusqu'à 4, le roguelite.
Ah bon, ah d'accord, ok. Ouais. Ah, c'est... D'accord, ok.
Okay.
Et donc voilà, tu peux custo ton petit perso, mais en fait, tu vas récupérer, d'ailleurs ils l'ont montré dans le trailer, mais en gros, pendant les niveaux, tu vas avoir des cartes qui vont se tirer à des moments, et tu vas devoir choisir entre augmenter ta cadence de tir de 10%, avoir un double saut ou ce genre de choses, et c'est vraiment un roguelite. J'espère qu'ils vont s'arrêter à 3 jeux Deep Rock Galactic, parce que je pense pas qu'on ait besoin de plus, quand même, mais c'est cool.
D'accord, très bien. Et donc, celui dont tu nous parlais, encore une fois, on le répète, c'est Deep Rock Galactic Survivor, dont la démo est disponible sur Steam à l'occasion d'un Next Fest machin, dont il y en a maintenant tous les deux mois, donc j'arrive plus à suivre.
Tout à fait.
Super, merci beaucoup à vous trois. Je vais encore devoir rajouter des jeux que j'avais sortis à ma liste de jeux que je ne fais pas. Que je veux faire mais que je ne fais pas, donc je vous remercie mais en même temps genre à moitié quoi, mais je suis sûr que les auditeurs auront des trucs à rajouter à leur liste à eux, et ça c'est très bien. Et du coup, on peut maintenant passer à la fin de cette émission avec quelques news en plus et un jeu dont je voudrais parler, et en même temps je me dis que ça va peut-être donner quelque chose mais je suis pas certain. C'est un jeu de Microïd qui s'appelle Goldorak, le festin des loups, pour lequel on a eu un nouveau trailer. Et franchement, je ne peux pas imaginer que le jeu sera bien, mais en même temps, peut-on espérer qu'il soit bien ? Ils ont l'air d'avoir... Alors, techniquement, ce n'est pas hyper ambitieux. On sent qu'ils ont mis leurs ressources là où ils pouvaient, parce que... Il y a du combat à la troisième personne. Ça fait un peu penser au jeu de Platinum, au jeu... Les Transformers, merci, Gérard.
Oui, oui, oui.
Le jeu Platinum de Transformers, vous vous souvenez? Mais en plus, il y a un jeu, genre un shoot'em up vu derrière, à la Harrier ou Rez ou ce genre de truc. Et en plus, il y a un moment, tu passes en mode bullet hell en vue de dessus en shoot'em up classique. Alors, le son, l'acteur, je trouve, évidemment, ne capture pas la majesté des attaques de Goldorak de mon souvenir, de ma jeunesse. Je trouve même qu'il n'est pas très bon. Mais bon, à côté de ça, franchement, je me dis pourquoi pas. Je suis convaincu que ça ne va pas être un jeu de l'année. Mais je trouve que l'ambition du truc et la stratégie de Microïs de se dire on va taper dans des trucs dont on sait qu'ils vont parler aux gens avec des licences qui ne vont pas nous coûter trop cher et peut-être construire un studio qui peut faire de mieux en mieux. Je crois qu'il y a peut-être un truc qui se passe là. Et donc, j'aurais curieux de voir ce que donne le jeu. C'est Goldorak, le festin des loups. Et c'est dispo, je ne sais même plus, dans pas trop longtemps, je crois. Je ne sais même plus. Mais bon, on en reparlera quand il arrivera. Il y a une édition collector, si ça vous intéresse.
Vraiment.
Je suis curieux de savoir qui achète l'édition collector de Goldorak, le festin des loups. Mais bon, avec des posters.
Même qui achète le skin à 2 millions, je pense.
Ceux qui achètent quoi ? Les skins à 2 millions, oui. C'est le 14 novembre, donc il arrive.
Ok.
Également quelques infos sur... on parlait d'IA à l'instant, on s'inquiète un petit peu pour eux, évidemment. On parlait de Ricky Tello, de la configuration compliquée dans l'industrie du jeu vidéo. Et puis surtout du fait qu'ils ont dû abandonner la marque FIFA, avec FIFA qui leur a retiré sauvagement le nom, en ne renouvelant pas le contrat. Y arriver. Et donc, EA FIFA 2023 est devenu EA Sports FC 2024. Alors, ils vont un peu moins bien, visiblement, possiblement, que FIFA 2023, mais il s'en est quand même vendu déjà plus d'un million au Royaume-Uni. Un million en quoi ? Deux semaines ? Quand un jeu normal fait un million, c'est genre la fête à la maison, quoi. Donc, enfin, c'est un succès monumental. Bon, évidemment, pour EA, on ne joue pas dans la même cour, et surtout avec FIFA, qui est le jeu le plus vendu de l'histoire, enfin, parmi les jeux les plus vendus de l'histoire, mais un million déjà en Angleterre, ça va. Et en plus, ils n'ont pas à payer la FIFA, donc même s'ils en vendent un peu moins.
Ils se retrouvent, oui, au niveau de... Effectivement.
Je pense
mais
que...
Non, mais tu... Ça pour eux. Je vais bien te préciser, parce que c'est vrai que moi, tous les jours, je m'inquiète pour EA, donc c'est,
pareil,
c'est cool. C'est cool de voir qu'ils voilà, remontent un petit peu la pente, ils se mettent...
Ouais, voilà. Bon an, mal an.
Je suis conscient de la mission que j'ai également en tant que entertainer, mais aussi un petit peu informateur, vous voyez. Et donc, je suis rigoureux dans la sélection des sujets. Je suis heureux de vous avoir rassuré. Amazon est en train de mettre à jour son service de cloud, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, il n'est pas disponible en France ou en Europe encore, il est uniquement aux États-Unis, mais Luna est un service de cloud streaming d'Amazon qui est toujours disponible aux États-Unis, qui fonctionne toujours, et qui vous laisse désormais acheter des jeux individuellement sur le service. Il y a depuis longtemps la possibilité de jouer à des jeux par abonnement. Là, on peut acheter les jeux sur le service. Alors, évidemment, acheter un jeu sur un service spécifiques et ne pas les avoir ailleurs que sur le service de streaming, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais je pense que les gens qui regrettent Stadia, et il y en a, on ne sait pas où ils sont cachés quelque part, mais il y en a, je vous le confirme, ils sortent du bois à chaque fois que je dis du mal de Stadia, ils seront contents de savoir que Luna pourra peut-être remplacer le service à terme, quand il arrivera en Europe pour nous, mais il continue d'évoluer. On parlait également de Cyberpunk tout à l'heure, et du fait que, bah là encore, on peut peut-être s'inquiéter pour la situation de CD Projekt. D'ailleurs, c'est marrant, je vois des gens dire « Ah bah quand même, les pauvres, ça n'a pas bien marché, Cyberpunk. » Et bon, soyons honnêtes, CD Projekt, c'est pas EA. C'est une boîte qui a énormément gagné d'argent avec The Witcher, et en particulier The Witcher 3. Ils ont eu un gros succès, c'est pas un énorme éditeur, pas un énorme développeur, enfin, ils sont énormes parce qu'ils ont bien vendu Witcher 3, en gros, donc il serait tout à fait possible qu'ils se plantent si Cyberpunk se plantait. Et beaucoup de gens ont cette image de Cyberpunk qui s'est planté parce qu'il ne il marchait pas bien à la sortie. Ils en ont quand même vendu beaucoup. À ce stade, il en est à 25 millions d'unités vendues, Cyberpunk. Je pense qu'ils vont bien aussi. Ça va. Et d'ailleurs, ils sont en train, visiblement, de travailler au développement d'une série télé live, Cyberpunk. Et si vous dites, adaptation de jeux vidéo, ok, ça va mieux de temps en temps, maintenant on a des trucs qui sont pas trop mal, mais enfin en live c'est compliqué, qu'est-ce que ça va donner? Ils travaillent avec Anonymous Content, qui est une boîte de production, une société de production, qui a fait des trucs comme True Detective, Mr. Robot, etc., etc. Ah, oui. Pour créer une série, Westworld, True Blood, enfin c'est des vrais quoi. Et ils ont même fait les premières saisons de... ils travaillent avec des gens qui ont travaillé sur Game of Thrones, etc., sur les premières saisons. Donc
est-ce qu'ils auront Kyrus et Idris Elba dans le casting?
C'est la grande question.
Imagine le prix de production, le coût de production du truc. Non, après, faut juste qu'ils veillent à ce que ça se termine pas comme la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, la saison 3 de The Witcher, avec Henry Cavill. Au bout d'un moment, Henry Cavill, même lui, il avait plus envie de faire Geralt. Il était là, les gens, ils venaient le voir. Geralt, comment on fait là? Il y a Ciri qui est en galère. Et je sais pas, allez tuer les monstres, je m'en bats les couilles. Et il avait plus, ça se voyait dans son acting, que Henry Cavill, il voulait plus faire The Witcher, et que c'était comme une punition. Lui a dit, tu mets la perruque, tu mets ton froc en cuir, et tu fais le signe comme ça là, pour faire le vent là, et puis voilà, et t'arrêtes Henri. Et il avait l'air triste, donc j'espère que Cyberpunk ça
sera pas ça. D'ailleurs, le prochain DLC de Cyberpunk, c'est plus Keanu Reeves, hein, c'est Christian Clavier.
Écoutez, c'est pas la même ambiance, il a son public aussi, mais oui, effectivement ça risque de décontenancer certains joueurs, c'est possiblement. Il travaille aussi à Cyberpunk 2, hein. il n'y aura pas d'autres DLC, mais il y a le Cyberpunk 2 qui est en cours, donc en parallèle du nouveau Witcher, donc ça va également. Et enfin, on l'apprenait à la fin de l'épisode précédent, Lego a publié les premières images de leur set Animal Crossing, qui évidemment enflamme la toile, enfin une certaine partie de la toile. C'est pas tant pour parler de Animal Crossing chez Lego que pour exemplifier à quel point maintenant les jeux vidéo, c'est le truc qu'il faut décliner partout. Et moi, je suis content en tant que fan de jeux vidéo qu'on ait enfin notre dû, vous voyez, qu'on nous reconnaisse à notre juste valeur avec des petites figurines de Tom Nook. Mais vraiment, c'est devenu, enfin, à la télé, au cinéma, je pense que la culture industriel en général est en train de se dire mais en fait, il y a des gens pour acheter ces trucs-là. On est à deux minutes d'avoir un set de Lego Goldorak, quoi. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe dans le monde. Et c'est tout pour cet épisode. Merci à vous trois de m'avoir accompagné. C'était périlleux, mais glorieux à la fin, je pense. Donc, je vous remercie très chaleureusement d'avoir été avec moi. Avant de se quitter, comme toujours, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver. Commençons par Iscarina. Est-ce qu'on peut te voir? Alors, peut-être pas en vrai avec la webcam, mais est-ce qu'on peut te voir ailleurs? Attends. T'es en train de me dire que tu fais non de la tête. T'es en train de me dire que c'était un contenu exclusif rendez-vous jeu.
Bien sûr, exclusivité mondiale. J'espère que je pourrai renouveler.
quand t'auras acheté une webcam. Et si c'est juste le fait d'avoir une webcam qui te pose problème, parlons-en. Je te rappelle que j'ai une société qui peut se permettre des achats luxueux dans le domaine du jeu vidéo et de la professionnalité. Donc, inspiré par Mehdi, peut-être que nous pourrions faire quelque chose.
Un petit couteau, là, à 2 millions.
Ouais. donc non, on ne peut me voir nulle part ailleurs. Par contre, on peut m'écouter et me lire. Donc, on peut me lire sur Kiss My Geek, donc toujours le site. Bah, j'ai publié mon petit test de Chance of Senarl, pareil, pour propager l'amour, ce jeu incroyable. Sinon, on peut m'entendre ici tous les deuxièmes jeudis du mois et chez Super Gamer Side, donc le podcast semi-professionnel de jeux vidéo, sur un autre ton, mais avec tout autant de plaisir, bien évidemment. Et puis sur Twitter, X, pardon, j'arrive pas à m'y faire, @escarina_.
Tu fais pas partie des gens qui migrent vers Blue Sky ?
Non, tu sais, moi, je suis une vieille conne. Je m'accroche au meuble. J'ai la flemme de bouger pour l'instant. Moi, tant qu'il y aura un peu de vie encore, je resterai. Puis
d'accord,
au bout d'un moment, peut-être,
bien.
J'aurai les autres.
D'ailleurs, je précise à ceux qui veulent migrer sur... je vais plus en parler sur Twitter, justement, parce que ça a amené peut-être des gens qu'on ne voulait pas. Mais sur le Discord, on a un channel d'échange de codes d'accès, d'invitation à Blue Sky. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui en avaient, j'en avais filé. Les gens en ont maintenant en plus, donc ça se multiplie. Donc, si vous voulez, on a un message sur le forum, sur le Discord. Et je ne vais plus en parler. Là, j'en parle à la fin de l'émission pour les vrais qui sont restés jusqu'au bout. Vous pouvez venir et peut-être... Alors, il y a beaucoup de demandes, mais l'offre se renouvelle parce que les gens qui en ont de nouveau tous les 10 jours. Donc, ça vient. Vous pouvez venir si vous en voulez. Chut, je suis dessus depuis une heure, me dit-on dans le chatroom. Quoi ?
Pourquoi Blue Sky et, parce qu'avant, il y avait eu...
Mais il y a Mastodon. Je ne comprends pas pourquoi les gens préfèrent Blue Sky et Mastodon. Je ne sais pas.
Il y a un mouvement qui semble se faire là ces dernières semaines, ces derniers jours en particulier, vers Blue Sky. Écoute... compte tenu de ce qui se fait sur Twitter, moi je dis, faut l'envisager, c'est quelque chose qui se réfléchit.
Ouais. Après, dans quelle mesure est-ce que le mouvement va durer 3 semaines, après on va fatalement tous revenir sur...
C'est les imprévus.
Franchement, le mouvement que je constate, je dis pas que ça va durer, j'en parlais il y a pas longtemps, je dis pas que ça va durer, mais j'ai jamais vu un mouvement aussi... Dans la communauté française, ça a l'air un petit peu moins ailleurs, mais dans la communauté française, tout le monde, en tout cas les gens que je suis... Tout le monde est en train d'aller sur Blue Sky. Mais tout le monde, c'est incroyable. Et je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que Mastodon est là depuis longtemps. Moi, j'aime beaucoup Mastodon aussi. C'est plus simple un peu. Blue Sky, c'est... il n'y a qu'une seule instance. Tu t'inscris, tu te logs, ça ressemble à Twitter. Donc, c'est plus facile. Bref, bon. Blue Sky, moi, j'y suis aussi. Si vous y êtes, je vais vous trouver et vous suivre, messieurs. Médoc, où es-tu ? Est-ce que tu es sur le Blue Sky ?
Alors, pas encore, mais j'ai reçu du code, là. Donc, dès que j'ai compris la technologie, j'y vais. Et autrement, alors oui, plusieurs choses. Donc, il y a le Cozy Corner, le numéro 129, qui est sorti là, hier, et que les gens peuvent écouter, et qui est objectivement, après, c'est... Voilà, mais objectivement, je pense que c'est le meilleur Cozy Corner qu'on a sorti avec Moguri.
C'est souvent le cas avec le dernier qui est sorti.
Je sais pas, je m'en rends pas compte.
C'est comme les iPhones, tu vois. C'est généralement, c'est le meilleur iPhone qu'on ait jamais conçu. Le meilleur Cozy Corner que vous ayez jamais enregistré.
Ouais, effectivement, oui, il y a peut-être...
Et déjà, autrement... le crossover avec Adrien Méniel, c'était très très fort.
Alors c'était génial ça, le zone de confort avec Adrien Méniel, ça fait partie des choses qu'on aime bien faire quand on a la possibilité, c'est-à-dire d'inviter des gens qu'on aime bien et discuter avec elle et eux. Et on a aussi la semaine prochaine, donc sur le Twitch d'Arte, il y a, je crois que c'est mercredi prochain, il y a l'émission Jour de Play dans laquelle je fais ma hot take. Bon, ben là, vous verrez ce que c'est. Et quoi d'autre ? Ça, les streams, comme d'habitude, sur la chaîne Twitch de mon entreprise Alice Blaze. Et la dernière chose que je voulais dire, Patrick, c'est un tout petit peu, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu déçu, que tout à l'heure, quand tu as parlé de Fit Patrick, je m'imaginais, moi, dans ma tête, un site internet où tu vends tes photos de pieds. Et je me suis dit, là, Patrick, là, il a le nez creux. Là, il a senti le truc. C'est un modèle. Ça, c'est un business model. Et en fait, pas du tout. Fit, c'était FIT. Donc, c'est,
ouais,
voilà.
Ouais.
Mais tu juste sais... pour dire que, tu vois, moi-même, je suis bilingue. Mais
ça fait longtemps, et j'en parle aux auditeurs et aux auditrices, ça fait longtemps que je cherche un troisième pilier financier pour mon entreprise professionnelle de riche. Parce que j'ai le Patreon, j'ai de la pub aussi dans les émissions, mais il faut un troisième pilier et j'en ai jamais trouvé. Mais écoute, il y a de l'inspiration
Patrick.
Possible.
Voilà.
On va y réfléchir. Merci
Parfait.
Médoc pour ça et pour tout le reste. Et on conclut avec the last but not least, puisque c'est everyone is equal ici, c'est comme l'école des fans. Nodus, où te retrouve-t-on ? Dis-moi tout.
Moi j'en ai marre des blue sky, des mastodons, des poètes et des skurts. Copain d'avant, voilà, moi c'est la valeur sûre. Voilà, j'y suis resté, vous pouvez me retrouver là-bas. Sinon je pense pour l'instant, moi tant que le navire n'est pas tout à fait coulé, je reste sur Twitter parce que c'est quand même là que le travail se fait. Donc toujours Nodus, Nodus, sinon sur Twitch, tous
c'est
les
pas
lundis,
Nodus underscore
lundis.
Sur Twitter.
Quand tu tapes Nodus,
ouais. Oui, okay.
Oui, Nodus underscore, mais sinon quand tu tapes Nodus, je crois que le référencement doit être néanmoins fonctionnel.
Très bien.
Et sinon, vous pourrez me lire dans Canard PC le mois prochain, je crois, celui de novembre, le hors-série jeu de plateau. Je parlerai des échecs.
C'est un roguelike.
Ça commence. En fait, c'est basé à la base sur une série qui était sortie en 2020. Donc, ils ont décidé d'en faire un jeu. Ça a bien marché, le jeu de la dame. Et ils se sont dit, putain, yes. Produit dérivé. Là, ils nous font un produit dérivé.
Ah oui, mais j'ai bien aimé le jeu de la dame. Ah oui, mais c'est ça. Ok.
Et voilà.
D'accord. Donc c'est Canard PC.
Dérivé.
Ah, Canard PC, du coup. D'accord.
Produit dérivé officiel du jeu de la dame. Ouais, ils l'ont enfin fait.
Ok.
C'est mieux
super.
Que le jeu de la roulette dans Sea of Stars ou pas?
c'est plus complexe.
Oh merde, pardon Patrick, j'ai oublié de dire Origami aussi également parce que je participe. Bah non mais pardon. Donc Origami, non mais voilà, juste voilà. Bon, j'ai dit le mot, c'est dans l'esprit des gens. Origami, donc média, voilà, va y avoir les streams, va y avoir les lives, va y avoir le contenu et dans certains je participerai. Donc voilà, c'était juste pour dire ça quoi. Nouveau média français, jeux vidéo. Culture, etc.
On en parle de temps en temps d'Origami également. On en parle de temps en temps et on n'en peut plus d'attendre l'annonce qui devrait arriver bientôt.
C'est bientôt prêt, d'après les informations que j'ai, c'est bientôt prêt. Donc voilà.
Écoute, on continuera à suivre ça de très près. Le nouveau média jeu vidéo protéiforme. Et oui, c'est un petit peu ça. On a suivi tout ça évidemment avec le financement participatif à succès,
yes.
Auquel j'ai participé, yes. Évidemment. Et j'ai également participé, yes. D'ailleurs, je le mentionne, au projet Odyssée de Tev, ici Japon, pour le musée dont je parlais il y a quelques temps. Le musée avec la collection de Ludovic, je crois. J'ai enfin pris le temps de participer au projet. Donc voilà, il y a des trucs cool à faire. Des créateurs et des projets à soutenir, Origami, Nodus, Cozy Corner, Eska, Super Gamerside, tout ça. Et possiblement également Patrick Béja sur patreon.com/rdbjeux. Je dis ça, c'est une possibilité. En plus, il y a plein d'autres créateurs sur Patreon. Donc, si vous n'avez jamais pensé à vous lancer, à créer un Patreon, eh bien, c'est peut-être le moment parce qu'il y a plein de gens cool à soutenir. Patreon.com/rdvjeux, ça peut être votre porte d'entrée vers ce bonheur permanent qu'on ressent quand on est un soutien de créateurs qu'on apprécie. Je suis également sur tous les réseaux sociaux, machin. Je fais également un petit peu de TikTok, tiens. Je commence à tester TikTok. Ah. Je vais pas recommander, je vais même pas dire mon nom sur TikTok parce que c'est pas prêt. Mais je commence à tester un petit peu des formats, des machins. C'est marrant, c'est rigolo.
Sur TikTok.
Fit Patrick sur TikTok. FIT, hein. Soyons clairs. Parce que je veux pas vous vendre un truc que vous serez déçus en arrivant, quoi. Vous voyez, c'est bon. Merci à tous et merci à toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode et ça va être un gros épisode puisque le mois d'octobre est très agité, comme vous le savez. La semaine prochaine, il y a deux grosses sorties et on en parlera, j'espère, dans l'émission. On se retrouve à ce moment. Merci à tous, merci à toutes et à très vite. Ciao, ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.